Mes bien chers amis, le 8 décembre dernier, le pape disait « L'Église se trouve à une heure d'inquiétude, d'autocritique, on dirait même d'autodémolition. C'est comme un bouleversement intérieur, aigu et complexe, que personne n'aurait pu prévoir après le concile. L'Église, peu à peu, en vient à se frapper elle-même. » Autodémolition, dit le pape. S'autodémolir, c'est se démolir soi-même. Il semble donc que l'Église travaille elle-même à sa propre démolition. Elle en est venue à se frapper elle-même, remarque le pape. Au cours des siècles, l'Église a subi bien des attaques qui lui venaient du dehors, de personnes, d'institutions, de pouvoirs qui n'étaient pas de l'Église, et qui étaient les ennemis déclarés de l'Église, ou encore de personnes qui avaient appartenu à l'Église mais l'avaient quittée, hérétiques ou schismatiques. Mais aujourd'hui, c'est du dedans que se fait le travail de démolition. C'est, hélas, beaucoup plus efficace. Et cela après le Concile, après un concile qui se voulait précurseur de la réunification de l'Église, du retour à l'Église catholique de frères séparés, chrétiens encore, mais schismatiques, tels les orthodoxes ou les hérétiques comme les diverses sectes protestantes. Or, que constate-t-on? Ce sont les catholiques qui se protestantisent, qui ne reconnaissent plus le magistère du pape, qui discréditent puis rejettent des vérités fondamentales du dogme, qui désacralisent le culte, qui vident le catéchisme de son contenu religieux et préparent une génération pour laquelle la religion sera sujet d'ignorance ou de dénigrement. Évidemment, même cette crise profonde par laquelle passe l'Église ne réussira pas à la jeter à terre. Même si des gens d'Église eux-mêmes se font agents de démolition, ils ne viendront pas à bout d'elle. Le Christ lui-même lui a promis la pérennité. Mais elle peut souffrir, et elle souffre. Elle peut subir des pertes, comme elle en a subi par l'invasion du mahométisme ou par l'expansion du protestantisme. C'est douloureux pour elle, et c'est désastreux pour le salut de milliers et de millions d'âmes. Qui comptera les âmes qui sont tombées, tombent et tomberont en enfer pour toute l'éternité, parce que ceux qui devaient les nourrir de pain leur auront servi du poison. Le mercredi saint 2 avril, dans son audience générale hebdomadaire, Paul VI, après avoir parlé des souffrances du Sauveur dans sa passion, a souligné de nouveau la passion par laquelle passe l'Église dont il a la charge comme vicaire du Christ. Écoutez ces paroles. L'Église souffre-t-elle aujourd'hui? Fils très cher, oui, aujourd'hui l'Église est en proie à de grandes souffrances. Mais comment? Après le concile? Oui, après le concile. Le Seigneur la met à l'épreuve. L'Église souffre, continue le pape, de l'opprimant manque de liberté religieuse dans tant de pays du monde. Elle souffre à cause de l'abandon de la part de tant de catholiques, de la fidélité que mériterait une tradition séculaire et que l'effort pastoral plein de compréhension et d'amour devrait obtenir. Mais elle souffre surtout du soulèvement inquiet, critique, indocile et démolisseur de tant de ses fils, les préférés, prêtres, enseignants, laïcs, dédiés au service et au témoignage du Christ vivant dans l'Église vivante, contre sa communion intime et indispensable, contre ses normes canoniques, contre sa tradition, contre son autorité. Elle souffre de la défection d'ecclésiastique et religieux qui crucifie aujourd'hui l'Église. Oui, précise une cause profonde de douleur pour l'Église et le souverain pontife. La situation faite à l'Église dans les pays d'obédience communiste est certainement attristante, mais au moins c'est l'œuvre d'adversaires du dehors, et l'Église en a connu bien d'autres. Mais elle est autrement attristée aujourd'hui par le cancer qui la dévore intérieurement. Elle souffre surtout, dit le pape, du soulèvement indocile et démolisseur de tant de ses fils. Et parmi ses fils, il mentionne les préférés, prêtres, enseignants, dédiés officiels au service et au témoignage du Christ, dédiés qui se font démolisseurs quand ils devraient être constructeurs, dédiés qui rejettent l'autorité du magistère, faisant litière de valeurs traditionnelles multiséculaires, brisant l'unité, substituant à la morale l'éthique de situation et le jugement personnel. Ce sont ces prêtres, ces enseignements, ces préférés qui crucifient l'Église, dit le pape. Ils ne sortent pas de l'Église pour cela, ils y restent afin de mieux réussir leur travail de sape. Ils le disent eux-mêmes, non pas qu'ils parlent de sape, mais de changement. Changer l'Église de toujours pour une Église de leur cru. C'est ce que déclare, par exemple, le théologien allemand Kuhn de l'avant-garde progressiste de son pays. « Nous qui restons dans l'Église, dit-il, nous avons pour le faire de très bons motifs. Il s'agira non pas seulement d'interpréter la réalité de l'Église, mais de la changer. » Le lendemain, jeudi saint, le pape revenait sur le sujet au cours d'une homélie que l'Osservatore Romano intitule « Douloureux appel du pape à l'unité interne de l'Église ». Ce titre à lui seul définit une situation à serrer le cœur de tout catholique attaché à son Église. Ce n'est plus l'appel conciliaire à des frères séparés pour refaire l'unité chrétienne dans un seul troupeau sous un seul pasteur. C'est l'appel aux catholiques eux-mêmes, dont l'unité craque sous la pression de tendances centrifuges s'exerçant au sein même de l'Église. Le pape a mentionné ces divisions, allant jusqu'à employer les termes « schisme » et « ferment pratiquement schismatique ». Voici ses paroles. « On parle, dit le pape, d'un renouveau dans la doctrine et la conscience de l'Église de Dieu. Mais comment pourrait-elle être authentique et durable, l'Église vivante et vraie, si dans l'ensemble qui la compose et la définit comme corps mystique, spirituel et social, elle est si souvent et si gravement blessée par la contestation ou par l'oubli de sa structure hiérarchique, falsifiée dans son charisme fondamental, divin et indispensable qu'est l'autorité pastorale? Comment pourrait-elle s'arroger d'être l'Église, c'est-à-dire son peuple, un peuple uni, quand un ferment pratiquement schismatique la divise, la subdivise, la brise en groupe surtout jaloux d'une autorité arbitraire et au fond égoïste, masquée du nom pluralisme chrétien ou liberté de conscience? Le pape parle. Mais quel cas en fait le monde catholique? Paul VI en faisait lui-même la remarque au cours d'une de ses audiences. « J'ai parfois, dit-il, l'impression que je parle dans le vent. » Pourquoi? Parce que son magistère est contesté publiquement par des théologiens de grande renommée dans leurs pays respectifs. Ou bien, sans être contesté publiquement, il pèse peu ou point dans même milieu, même épiscopaux. Et c'est pourquoi des collégialités manifestent des tendances centrifuges vers des églises nationales déromanisées. Et c'est pourquoi le sens du sacré s'en va à l'eau, et c'est pourquoi des expériences de messe bouffonne se font en maintes paroisses, dégradant la liturgie sous l'œil d'évêques muets. Et c'est pourquoi le catéchisme traditionnel, qui enseignait les articles du symbole, les commandements de Dieu et d'Église, les sept sacrements et la prière, est remplacé par des catéchèses de verbiage, vides de doctrine quand ce n'est pas chargé d'hérésie. Cela, pas seulement en Hollande, pas seulement en France, mais pareillement aux États-Unis et dans notre propre pays, le Canada. Mais j'aborde ici un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, parce que c'est tout l'ordre religieux et civil de demain qui est en jeu. Il pourra en être question dans une prochaine causerie. Le tableau, d'ailleurs, est déjà suffisamment chargé pour alerter l'esprit et toucher le cœur de tout catholique sincère. Un fils de l'Église n'a pas le droit de rester indifférent devant les attaques qu'elle subit, devant la crise qu'elle traverse, devant les contestations, les soulèvements internes et les infidélités qui affligent si profondément son chef actuel, le pape Paul VI. N'oublions pas que le pape est le représentant direct du Christ et que mettre en question le magistère du pape en matière de morale comme en matière de doctrine, c'est mettre en question l'autorité de notre Seigneur lui-même. Les théologiens qui disent non au pape disent non à notre Seigneur lui-même. Et plus ils ont de prestige et de moyens de se faire entendre, plus ils font de mal au sein même de l'Église. Chacun de nous, en tant que baptisé, en tant que confirmé, n'est pas seulement un bénéficiaire des richesses du Christ dispensées par la Sainte Église, mais il en est aussi un membre responsable. Responsabilité de plus en plus pressante à mesure que l'ennemi, qu'il soit du dehors ou du dedans, redouble ses assauts. Personne n'est sans moyen pour l'exercice de cette responsabilité. Le premier moyen accessible à tous, c'est bien la prière. La prière pour la Sainte Église, pour notre Saint-Père le Pape, comme dans le Saint-Sacrifice de la Messe, doit se faire de plus en plus ardente. L'heure du démon appelle l'heure du chrétien. Redoublons donc de ferveur. L'oubli pratique de Dieu au long des jours, parfois des semaines ou des mois, ou même de la vie courante tout entière, alors qu'on est si empressé pour le confort, pour le jeu, pour la distraction, pour les images souvent malsaines de la télévision, ne manifeste pas d'une grande sollicitude pour les souffrances de l'Église et du Saint-Père. Absence, sommeil qui risque de devenir engourdissement total et permanent. En rappelant les paroles angoissantes du pape et en citant quelques exemples des causes de son angoisse, nous avons justement voulu essayer de réveiller ceux qui dorment ou somnolent pendant que le Christ agonise dans son vicaire et dans son Église.